Lorsqu'on touche à la traduction, on aborde un domaine refoulé, riche en résistance. Je suis bien convaincue de ce rejet plus ou moins conscient d'une réflexion sur la traduction. Je suis surtout convaincue des résistances qu'a encouragé une tradition multiséculaire. Mais je ne renonce pas pour autant à toucher à des habitudes de pensée et d'action singulières en France et à inscrire ma réflexion dans la modernité, comme le recommandent les organisateurs de ces rencontres. L'intitulé de mon intervention, que vous avez sur le petit livre rouge, indique clairement que je me situe du côté de l'apprentissage de la traduction. Et c'est à ce titre que je vais donner d'abord un rapide aperçu de l'histoire de la traduction en France, à laquelle j'associerai l'histoire de la version. Puis je rappellerai quelques dénonciations et recommandations de deux traducteurs qui ont marqué nos études, Paul Valéry et Jacques Perret. Je prendrai appui sur eux et sur la recherche conduite depuis plusieurs décennies dans le domaine de la traductologie pour suggérer un renouvellement, une refondation en matière de traduction scolaire. Mon dessein est de donner une vraie place à la traduction, à cette pratique humaine, intemporelle, fondée sur l'acceptation de l'étrangeté et de la diversité, qui invite à se dépayser, à déprovincialiser la langue maternelle, comme le dit Paul Ricoeur. Mon dessein est aussi de donner à notre très provinciale version la place qui lui revient, celle d'un exercice qui, comme le disent clairement Pierre-Judet de Lacombe et Heinz Wissmann, ne se confond pas avec la traduction. Mon propos s'articule autour de deux principes. L'un que j'emprunte au guide pédagogique du professeur, qui préconise, dans le cas de la traduction, une épreuve de l'étranger indispensable à l'identité du futur citoyen. Et l'autre que j'emprunte à Umberto Eco, qui envisage la traduction sous l'angle de la négociation, ce processus selon lequel, pour obtenir quelque chose, on renonce à quelque chose d'autre, et d'où, au final, les parties en jeu sortent avec un sentiment de satisfaction raisonnable et réciproque, à la lumière du principe d'or selon lequel on ne peut pas tout avoir. L'aperçu historique que je limite à la France s'inscrit dans un contexte plus large, notamment celui de la traduction en Europe, dont j'invite à lire l'histoire dans un chapitre qu'Henri Méchonic intitule « Les grandes traductions européennes, leur rôle, leurs limites. Problématique de la traduction ». Un chapitre dont le premier sous-titre « L'Europe et la traduction » ont une même histoire, concerne particulièrement l'apprentissage du grec et du latin en ce qu'il doit constituer, selon les instructions officielles, un socle culturel commun à tous les pays d'Europe. La traduction en France connaît des débuts difficiles en raison des rapports de domination puis de concurrence plus ardus que dans d'autres pays entre la langue latine et la langue vernaculaire. Dans le domaine littéraire, ces difficultés sont implicites, car on cherche surtout à produire des textes dans la langue du roi, comme le fait Jacques Amyot lorsqu'il traduit les vies de Plutarque, ou encore on cherche à questionner les modes de création littéraire, comme le fait Du Bellay, qui considère la traduction comme un louable labeur, moyen utile, mais non suffisant pour élever la langue française à la hauteur des autres langues vulgaires devenues fameuses. Dans chacun des cas, la langue française est mise à l'épreuve de la langue grecque ou de la langue latine avec une posture quelque peu ancillaire. Mais cette posture disparaît dès la naissance de l'écrivain. Un écrivain auquel s'identifie le traducteur désireux de faire valoir la langue française, tel Nicolas Perrault d'Ablancourt, qui accepte volontiers de marcher à la tête.